Vous travaillez dans l'audiovisuel? Alors ce podcast est fait pour vous.
Tu ne sais pas ce que tu veux.
Enfin, je fais un raccord dans le mouvement, espèce d'idiot.
Je suis Jonathan Elalouf et vous écoutez Au Générique, le podcast qui parle de tous les métiers de la création audiovisuelle.
Si la production vous dit non, vous dites le metteur en scène a dit oui.
Un mardi sur deux, je donne la parole à un ou une professionnelle pour vous faire découvrir de manière authentique son parcours, ses anecdotes et son métier.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une niche, il y a très peu de vidéos. Je te retrouve dans une maison avec les 6 meilleurs riders du monde. Moi, je me dis, ben allez, je vais faire une vidéo de chaque mec. En fait, je suis parti vraiment de zéro. Et c'est ça qui est cool, en fait, aujourd'hui. Je suis pas arrivé en me disant, tiens, t'as 10 000 euros de matos, c'est parti, quoi, tu vois. Et je fabriquais un steadicam avec un guidon de trottinette.
Ce podcast vous est présenté par Lightyshare, plateforme de location de matériel audiovisuel. Où que vous soyez, retrouvez tous les équipements dont vous avez besoin sur lightyshare.com.
Et en fait, on a découvert une colline manchot empereur où normalement, les gars sur le bateau, ils te disent, si vous envoyez 4 des manchots empereurs dans votre voyage, c'est fantastique. On en a vu 5000.
Et si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Bonne écoute.
Moteur ! Oh putain, moteur !
Salut JC.
Salut.
Merci d'avoir accepté notre invitation et puis de nous recevoir chez toi à Marseille. C'est
avec
un plaisir. Ce premier enregistrement pour nous en dehors de nos bureaux, donc c'est cool. Tu es un ancien professionnel de BMX freestyle et c'est grâce à ta passion pour ce sport que tu as découvert et commencé la vidéo. Aujourd'hui, tu es photographe, réalisateur avec un fort penchant pour le monde documentaire et principalement animalier. Tu es d'ailleurs aussi producteur depuis plusieurs années maintenant avec ta société de production North Sky Films.
Tout à fait, exactement.
Ouais. Super. Tu partages beaucoup de tes images, des images de tes projets, pardon, du Kenya à l'Antarctique sur ta chaîne YouTube et ton compte Instagram qui compte à eux deux plus de 200 000 abonnés. Donc tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Et c'est en partie cette forte présence sur les réseaux sociaux et la qualité de tes projets qui t'a permis d'être aujourd'hui ambassadeur de plusieurs marques comme Canon, GoPro ou Adobe, pour ne citer que.
Tout à fait.
Alors entre toutes ces différentes casquettes, aujourd'hui, comment tu te définis?
Alors je pense qu'à la base, comme dans tous les types de métiers un peu artistiques, il faut être passionné. Donc, je pense que je suis un passionné qui a réussi à vivre de sa passion, tout simplement. Voilà, pour moi, c'est simplement ça. Et c'était un peu mon rêve au départ. Quand j'ai fait du sport extrême, je pensais pouvoir vivre du sport extrême. En France, c'est très compliqué. Franchement, les comptes sur les doigts d'une main, les gens qui vivent vraiment du BMX en France. Parce que voilà, je viens du monde du BMX. Et après, petit à petit, c'est comme ça que la passion de l'image s'est développée en faisant des photos, des vidéos de mes amis et puis pour des marques, etc. Et donc, j'ai découvert une autre passion à travers la passion du sport au départ. Et quand j'ai pu comprendre que je pouvais en vivre, même si j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait une licence en finance, un master en sport event, je fais pas mal d'événementiel au départ. Et puis au fur et à mesure, je suis arrivé à trouver des clients et vivre de cette passion de l'image.
Ok, parce que c'est ça en fait, tu n'as vraiment pas du tout démarré dans le monde de l'audiovisuel à la base.
Non, non.
Tu étais vraiment 200 dans le sport. Et en fait, tu t'es autodidacte complètement sur toute cette partie photo-vidéo où tu t'es débrouillé. C'était système D au démarrage.
Ah vraiment, moi, je faisais des choses avec des fautes énormes en vidéo, même en photo, principalement en vidéo. Je faisais des choses. Je me dis, maintenant, quand je sais exactement comment ça fonctionne et les règles à respecter, je me dis, waouh, comment je faisais pour faire ça, etc. Et puis, c'est des amis, dont un ami que je peux citer, Christian Vananja, qui est aussi photographe de sport extrême, un très, très bon photographe, qui est énorme en technique, en vidéo, et qui m'a expliqué après toutes ses bases au fur et à mesure, en me disant, j'y sais, non, mais ça, il ne faut pas faire ça, quoi, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, au départ, je m'en fichais un petit peu des réglages, dans le fond, mais je me consacrais plus au cadrage et à ce que je voulais montrer. Et en fait, grâce à ça, j'ai développé mon œil en fait de photographe dans le fond et au fur et à mesure il suffisait d'un gars à un moment, donc ce gars Christian qui arrive et qui en 3 minutes te dit c'est comme ça qu'on règle, c'est comme ça qu'on règle, et puis c'est fait, tu vois, tu le sais et puis tu le fais tout le temps. Après ça, les réglages en 3 secondes tu peux les apprendre, il n'y a rien de compliqué, mais l'œil c'est différent.
C'est à force d'expérience que tu vas l'éduquer.
Exactement. Et donc c'est ça que je recherchais tout le temps, faire cette image là dans le monde du sport extrême par exemple. Au départ, tous les gens utilisaient un fisheye, donc un ultra grand angle avec les bords noirs presque un peu dégueulasses au départ.
Un peu avec la VHS à l'ancienne, ce côté
exactement.
Un peu crado.
Et en fait, si tu n'utilisais pas ça, c'était pas bon. Quoi. Tu vois, tu ne suivais pas la ligne directrice, enfin vraiment. Et en fait, au fur et à mesure, arrivaient les premiers boîtiers, donc le 5D Mark II, où on pouvait mettre des objectifs photo.
J'allais te demander justement, est-ce que tu te souviens du premier boîtier que tu as utilisé quand tu as commencé la photo? C'était quoi
Moi, c'était un caméscope.
Ouais, c'était un caméscope.
Ouais, caméscope, okay. Avec les cassettes en dessous. Où, en fait, je ne savais même pas comment faire un montage vidéo. et j'avais pas de logiciel et en fait j'avais un dictaphone et à côté en fait je mettais la musique du dictaphone que j'avais enregistré et que je recordais en même temps, pile en même temps avec la caméra. Et en fait, il fallait vite que j'arrête en même temps pour qu'en fait, bah, sur ma cassette, j'ai ma musique, quoi, tu vois.
Ah, c'était vraiment système ouais. D.
Je suis parti vraiment de zéro. Et c'est ça qui est cool, en fait, aujourd'hui. Et je ne suis pas arrivé en me disant, tiens, tu as 10 000 euros de matos, c'est parti, quoi, tu vois. Et je fabriquais un steadicam avec un guidon de trottinette.
Ouais, ça, c'était le classique. Voilà. Tu prends un tube de PVC et on y va. C'était vraiment système débrouille. Et puis, c'était sans les tutos YouTube. Hein, parce que, pas qu'on soit vieux, mais je pense qu'on a démarré plus ou moins en même temps. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contenu.
Ça fait du bien, en fait, de commencer de zéro. Parce que, en fait, ça te permet aujourd'hui, même si tu as les moyens, du matériel et tout, un jour, tu peux avoir un problème même avec du matériel et te dire comment je vais faire. Tu vois, d'un coup, ton steadicam électronique, il ne fonctionne plus. Bon, qu'est-ce que je fais, tu vois, je prends une trottinette, j'en fabrique un et on y va, quoi, tu vois, genre. Et en fait, voilà, c'était tout ça. Et donc, c'était le début de ces premiers boîtiers où on pouvait mettre des objectifs photo. Et donc, où tu pouvais mettre un 50 mm que tu achètes, un 1.8 que tu achètes à 50 euros sur le bon coin, tu vois. Et en gros, grâce à ça, tu allais faire des belles images avec une belle profondeur de champ. Et au début, dans le monde du sport extrême, c'était pas apprécié.
Ouais, ça existait pas vraiment. Ouais.
Les gens se disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, utilise un fisheye, cours avec ton skate à côté du mec. Enfin, il faut que ça soit dégueu, quoi.
Il faut que ce soit un peu c'est ça. Crunch ou je sais pas comment on va dire. Mais, c'est...
Et donc, quand tu commences à mettre ça, et moi, c'était un de mes super bons amis, Mike King, un anglais, qui commençait à faire ça et que j'ai commencé aussi à suivre. Et on était une dizaine dans le monde, vraiment, dans le monde du sport extrême, à utiliser ce genre d'objectif. Après, se faire critiquer au départ parce qu'on faisait des petits plans de coupe sur les mains, sur les yeux.
Quelque chose de plus cinématographique,
exactement,
en fait.
Qui n'existait pas, tu vois, en fait, dans le monde du sport extrême. Et plein de gens disaient, oh, c'est nul et tout. Enfin, et aujourd'hui, ils font tout ça, quoi, tu vois. Et donc, en fait, il a fallu un peu s'imposer là-dedans. Et comme c'était une niche, en fait, eh ben, on s'est rapidement fait connaître dans ce monde-là, puisque personne, déjà, à ce moment-là, quand on sortait une vidéo, tout le monde la regardait, puisqu'il n'y en avait jamais des vidéos. Et quand tu amenais quelque chose de nouveau, au fur et à mesure, on disait, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas si mal, ça. C'est peut-être, tu vois. Et en fait, voilà, je me suis fait connaître grâce à ça au départ.
Ok. Et du coup, toutes ces vidéos-là, tu les as encore? Elles sont encore en ligne?
Ouais, j'ai des vidéos. Moi, mes premières vidéos avec le caméscope aussi, c'est rigolo. Parce que des fois, t'entends
ça te fait mal un peu de les regarder.
Je rembobine la musique et tout pour ramener au bon moment. Enfin, mais c'est les meilleures vidéos du monde, tu vois. Enfin, c'est...
Ouais, ça, voilà. Tu les as pas reniées, t'as pas supprimé ton compte Dailymotion.
Surtout pas. Si tu vas sur Dailymotion, tu tapes JCBMX, je pense que tu peux trouver 2-3 trucs où je me casse la gueule. Et non, c'est rigolo, quoi.
Ah, mais c'est, de toute façon, on a tous démarré quelque part, mais c'est intéressant de voir que toi, t'as démarré tout seul et avec justement pas forcément beaucoup de moyens. Et que t'as quand même réussi à faire ton trou, si on peut dire, dans ce monde-là.
Ouais.
Et du coup, comment t'en es venu à te dire, OK, ça va être mon métier? Et de cette première expérience, de voir que, OK, ça plaît ce que tu fais, que peut-être que tu casses un peu les codes à ce moment-là.
Alors là, vraiment, j'ai utilisé les réseaux sociaux aussi à la base. Tu vois, c'était un peu le début d'Instagram, Facebook. Alors moi, Instagram, j'ai mis du temps. Au début, je l'utilisais plus pour le sport extrême. Donc, je partageais des photos ou des vidéos de moi en vélo, techniquement. J'essayais pas forcément de poster des choses esthétiques, mais plus sur Facebook avec les débuts de Facebook, tous les gens qu'on avait. Et à chaque fois que je faisais un projet photo, vidéo, je le partageais. Tu vois, genre vraiment sans me dire est-ce que ça va marcher ou pas, peu importe. Et en fait, j'ai créé mon réseau comme ça avec les gens qui me connaissaient, le bouche à oreille. Et au fur et à mesure, j'ai fait plein de projets différents. Donc, j'ai commencé par plein de vidéos de BMX, dont plein de projets pas du tout rémunérés, c'est que des projets perso ou des trucs, j'allais sur des compètes, je filmais la compète, je sais même pas pourquoi, juste parce que ça me plaisait, tu vois. C'est juste par passion.
Voilà, c'est l'appel de la passion en fait pour le sport. Exactement. Qui te dit, OK, ça me permet de faire de la photo, va me permettre d'accéder à cette compétition auquel j'aurais jamais accès normalement. Ouais. Et du coup, je vais y aller juste pour le kiff de faire des photos de ce sport-là, quoi.
Exactement. Et après, en même temps, il y a plein de choses en parallèle. C'est comme je faisais de l'événementiel, je créais des compétitions, je rencontrais des gars, de moi-même, je mettais un peu d'argent pour aller à l'étranger sur des compètes, pour rencontrer d'autres gars, les inviter sur mes compètes. Et en fait, tout ça, tu fais ton relationnel comme ça. Je faisais des vidéos pour eux. J'ai eu la chance d'inviter un Américain à une compète où je l'ai rencontré en Estonie. Je l'ai invité à Marseille sur une compète. De là, il m'a bien apprécié. Il a aimé l'événement, la façon dont on l'a invité, etc. Il m'a dit, vas-y, JC, viens avec moi aux États-Unis. J'ai une maison avec un skatepark et dedans, j'ai 6 des meilleurs riders du monde qui ride tous les jours. Et de là, en fait, un peu tout a commencé à ce moment-là parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était une niche, il y a très peu de vidéos. Tu te retrouves dans une maison avec les 6 meilleurs riders du monde. Tu vois, tu as les X Games à ce moment-là aussi, donc tu as tous les riders qui viennent. moi, je me dis, ben, allez, je vais faire une vidéo de chaque mec, tu vois.
Et il me semble que ces vidéos-là, elles sont encore sur ton YouTube en plus, non? Ouais, il me semble avoir vu. Ouais.
Bien sûr. Et donc, en fait, ces gars-là, à ce moment-là, tu fais des vidéos pour eux, tu le fais par passion. En fait, ce qui est bizarre, c'est que là, comme ça, tu as l'impression, je te dis, j'ai fait ça pour me faire connaître. Mais en fait, pas du tout. Genre, je l'ai vraiment fait parce que j'étais passionné de ces mecs-là, en me disant, waouh, mais attends, j'ai la chance de rencontrer mes idoles, quoi, tu vois, genre vraiment, il y a des gens où c'était vraiment mes idoles.
Ouais, il n'y a pas du tout une vision pécuniaire ou d'intérêt perso, c'est juste, c'est le kiff de ce sport et de ces sportifs.
Surtout qu'à ce moment-là, tu sais, il n'y avait même pas la course aux réseaux sociaux ou quoi que ce soit, en fait, il n'y avait pas, oh tiens, vite, tag-moi pour être connu, pour avoir des followers, pas du tout. Genre, en plus, même sur Instagram au départ, enfin, je m'en foutais vraiment des followers, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, bah, tu fais ces vidéos-là et tu te fais connaître parce qu'ils ont des sponsors. Et donc, ces sponsors, après, ils disent « Ah, c'est pas mal ce que tu as fait. Ça ne te dirait pas de travailler, de refaire une vidéo, mais bon, cette fois-ci, pour la marque, au nom de la marque, on va te payer, etc. » Et donc, au fur et à mesure, bah, tu as des petits contrats comme ça. Moi, ça me payait mon voyage aux États-Unis. Le mec chez qui j'étais, par exemple, j'allais souvent un mois ou deux mois, bah, en contrepartie de la chambre qui coûtait 700 $, bah, je lui faisais une vidéo pendant tout le mois, tu vois, de lui. Bon, bah, je ne payais pas ma chambre et en même temps, je faisais une belle vidéo. On allait dans les skateparks, on découvrait les gens, etc. Et voilà, tu vois, donc en fait, c'était un moyen de débrouille pour à la fois te faire kiffer parce que bah, tu filmais ce que tu aimais le plus possible, tu vois. Et puis en même temps, bah, tu gagnais un peu de sous après derrière, quoi.
Et du coup, tu faisais comment à cette époque-là pour le matos, justement? C'était des trucs que tu avais trouvé à droite, à gauche et c'était encore système D ou à petit, tu as commencé à professionnaliser un petit
peu? C'est ça, il y avait un peu tout. Ben, en fait, mon premier boîtier, voilà, c'était un peu des petites économies, etc., l'argent de poche. Et après, ben, les premiers contrats, tu faisais des soirées. Donc, moi, un de mes meilleurs amis, Benjamin, qui m'a fait confiance pour filmer ses soirées, et ben, j'allais filmer ses soirées pour 200 balles, 300 balles, par-ci, par-là. Et ben, toi, t'accumules vite et tu t'achètes un boîtier. Tu vois, aujourd'hui, t'as des boîtiers pour 300 balles, tu fais des trucs extraordinaires avec. Tu vois, donc en fait, quand t'avais filmé deux soirées, tu pouvais t'acheter un boîtier, techniquement.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, bah, c'était ça. C'était continuellement tout ce que je gagnais, je l'investissais dans mon matériel. Et après, c'est vrai que j'ai jamais eu cette addiction de fumer, de boire, de sortir, tu vois, outrance ou des choses comme ça. Et en fait, ben, tout cet argent que je pouvais mettre potentiellement dans ces choses-là, ben, en fait, je les mettais dans mon boîtier, dans mon matériel. Et ce que je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire ça, mais c'est juste que moi, de mon côté, je n'avais pas cette envie, ce besoin de faire ça. Et donc, en fait, ben, je n'avais aucune dépense d'argent, tu vois. Et donc, ben, tout mon argent, je le mettais dans mon matériel en me disant, ben, en fait, j'avais compris qu'il y avait un intérêt pour évoluer. Et je me dis que bah, l'argent, il ne va pas tomber du ciel, le matériel non plus. Et que bah, c'était mon seul moyen de pouvoir peut-être en vivre. Mais je ne savais pas si j'allais en vivre encore, tu vois.
Ouais, bien sûr. Ouais, c'était un peu trop tôt. Et du coup, justement, dès le début, tu postes beaucoup de vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc là, tu parlais de Dailymotion aussi tout à l'heure, mais ça, c'était une autre époque. Hein.
C'est ça.
Mais donc, du coup, très rapidement, tu as commencé à poster du contenu sur les réseaux en ligne. C'est quoi qui t'a poussé là-dedans? Est-ce que déjà, là, il y avait un peu une idée de « Ok, il y a moyen de construire une communauté ou quelque chose là-dessus »
Pas vraiment. En fait, j'ai jamais eu ce truc de me dire « Waouh, j'ai envie de devenir YouTuber, tout exploser, tu vois, faire des placements de produits, gagner ma vie grâce à YouTube ». Ben, je pense que, tu vois, aujourd'hui, par exemple, au moment où on se parle, j'ai 50 000 personnes sur YouTube. Bah, ça aurait pu être 10 fois plus si j'avais vraiment eu cette envie au départ de me dire « Allez, je veux devenir YouTuber, il faut que je crée ça parce que ça fonctionne, etc. » J'ai jamais eu cette envie-là. Aujourd'hui, je sais pas si j'ai vraiment en fait, cette envie de devenir célèbre sur YouTube ou quoi que ce soit, tu vois.
Ouais, l'ambition, on en parlera juste après de des différents projets que tu as fait dernièrement, notamment un documentaire. C'est justement sur la diffusion où tu as aujourd'hui la possibilité d'utiliser YouTube comme un diffuseur, mais aussi, comme là, tu es en train d'en parler, plutôt d'un côté starisation qui est complètement différent en fait.
Ouais, tout à fait.
Et peut-être que toi, du coup, tu vois plus YouTube comme vraiment une plateforme de diffusion qui te permet de toucher un nombre assez important de personnes.
C'est ça.
À défaut de circuit classique
de
diffusion, quoi.
Bah, en fait, tu vois, même Instagram, en fait, aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui me suivent parce que c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens un peu célèbres sur des projets de tournage, par exemple, des vrais projets professionnels pour des marques. De là, j'ai rencontré des gens, des influenceurs, donc qui avaient beaucoup plus de followers que moi, qui m'ont proposé de travailler pour eux en direct. Et donc, c'est vrai que quand je partais avec eux, ben, j'avais une belle visibilité. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir pas mal de followers parce que j'ai travaillé avec certaines personnes, etc. Et de mettre en avant mon travail. Donc, on va dire que Instagram s'est développé comme ça. YouTube, ben en soi, j'ai jamais collaboré avec quelqu'un, tu vois, sur YouTube. J'ai jamais vraiment cherché ça. Tu vois, peut-être que pour l'avenir, ça me servira, j'en sais rien. Mais sur YouTube, en fait, j'avais plus envie de partager juste mes projets, montrer, voilà, regardez, c'est ça, la vidéo a fait 1000 vues, c'est bien, elle fait 100 000, c'est bien aussi, tu vois, genre, en fait, il n'y avait pas, c'est pas très grave, honnêtement, c'est assez fou, mais même aujourd'hui, où, tu vois, c'est un peu important le reach, tout le monde regarde ça, moi, c'est vrai que ça va me faire de la peine si j'ai travaillé pendant 5 mois sur un projet qui fait 1000 vues, tu vois, mais après, peu importe, tu vois, je me dis, bah, c'est peut-être 1000 vues, mais 1000 personnes qui ont surkiffé. Et je préfère ça que partager et avoir 100 000 vues de personnes qui s'en foutent, quoi, tu vois.
Ouais, bien sûr, et puis faire un projet qui te parle vraiment.
Exactement.
Quoi. Ouais, ouais.
Donc, ouais.
Et du coup, justement, avant de rentrer sur tes projets, tu es aussi ambassadeur maintenant de beaucoup de marques. Mm-hmm. En quoi ça consiste aujourd'hui quand on est ambassadeur Canon? J'ai pu voir un petit peu sur ton YouTube que des fois, ça te donne accès à des objectifs complètement dingues, c'est peut-être qui sont un peu compliqués à acheter.
Exactement. Ouais,
pour le commun des mortels.
Ouais.
Mais qu'est-ce que ça représente? C'est quoi comme boulot en fait d'être ambassadeur Canon ou Adobe?
Il n'y a pas vraiment de grosses contraintes, honnêtement. Souvent, c'est très compliqué d'avoir un vrai contrat signé aujourd'hui dans ce monde un peu de visuel. Je commence à en avoir avec certaines marques. Donc là, aujourd'hui, je représente Canon, GoPro, Adobe pour les logiciels, F-Stop, c'est les sacs à dos aussi, et d'autres marques un peu derrière aussi. Et en fait, ça, c'est plus un peu un accord copain-copain, tu vois, où on te dit, bon, j'ai pas de contrainte à me dire, ok, il faut que tu postes ça à telle heure, tel jour, tu vois, il faut que tu fasses ça comme contenu. C'est juste que les marques, donc, elles sont intéressées par toi parce que tu as forcément une visibilité, tu as un background derrière, ils aiment aussi peut-être ton état d'esprit, ta façon de communiquer. Donc, c'est peut-être pour ça que je travaille aussi avec eux. Et après, ils vont me dire, voilà, Canon, ils vont m'appeler, voilà, j'y sais, on a un nouvel objectif, est-ce que ça te dirait d'en parler? Voilà, alors des fois tu vas avoir des projets rémunérés. Par exemple, là j'ai sorti un projet au Kenya avec, on a parlé des 600 et 800 mm chez Canon pour le grand public en photo animalière. Donc là, c'est un projet marque blanche Canon qui va être totalement rémunéré.
Ok. D'accord.
Après.
Ouais, donc là, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est vraiment un projet Canon où toi t'apparais à la fin au générique. Voilà, c'est ça.
Donc là, tout au long, c'est moi qui parle, qui présente les objectifs, par exemple. Et après, dans le voyage, j'avais besoin aussi d'un super, un 400 mm de 8 qui coûte 13 000 euros. Bon, ils me l'ont prêté. En contrepartie, bon, il n'y a rien de demandé précisément, mais je vais faire 2-3 stories, un petit post où je vais les taguer. Ça fait plaisir. Et voilà. Et c'est le même principe pour les autres marques. Et des fois, ils vont te demander, voilà, ils sortent un produit en avant-première, il faut en parler. Et on va le faire, quoi.
Et du coup, c'est d'être ambassadeur, c'est quelque chose dont tu pourrais vivre ou c'est vraiment un plus pour toi d'avoir accès à du matos?
Non, c'est,
de la visibilité, du matos, des projets.
Même honnêtement, des très, très grands photographes très, très connus aujourd'hui, ils n'ont pas de salaire, par exemple, de certaines marques. Dans le monde de l'audiovisuel, c'est un peu compliqué. C'est plus, on va dire, une aide. Tu vois, c'est un plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ai besoin d'un 400 mm de 8, j'appelle Canon. S'il est dispo, 2 jours après, je l'ai chez moi, tu vois. Okay. Ça, c'est génial.
Ouais, c'est un luxe qui est indéniable.
Et si je leur dis, payez-moi 5K par mois pour représenter votre marque, ils vont peut-être me dire non. Tu vois, donc en fait, c'est ça, quoi. C'est différent. C'est juste une aide, mais c'est cool. C'est appréciable parce qu'après, c'est aussi c'est valorisant.
Et puis, c'est des marques avec qui tu bossais. Enfin, c'est du matériel avec lequel tu bossais déjà. Donc, c'est des marques que tu aimais, j'imagine, déjà énormément.
Canon. Depuis 15 ans, mon premier caméscope, c'est un Canon. Et j'ai eu un moment, juste après le caméscope Canon, j'ai eu un caméscope Sony. Et après, ça a toujours été
retour
du Canon.
À Canon. Jamais eu cette. T'as jamais été pris dans la vague Alpha 7S Non.
Non, de suite est sorti le 5D Mark II.
Ouais.
Et de là, j'ai eu ça. Et après, au fur et à mesure, ça a monté, quoi.
Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu tournes avec quoi aujourd'hui?
Alors, moi, à l'instant T, j'ai un DX Mark II. Et j'attends que Canon me passe un R3.
Ok, magnifique.
Voilà, c'est le deal qui est signé, quoi.
C'est beau. Ok, et donc du coup, pour revenir un petit peu à ta carrière et à où t'en es aujourd'hui, t'es passé de la photo vidéo sport à vraiment plutôt ce qu'on pourrait appeler du documentaire animalier ou voyage.
Ouais.
Comment on passe de l'un, c'est quoi la transition, qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Alors il y a plusieurs choses, déjà le monde du sport extrême m'a fait beaucoup voyager, donc c'est comme ça que j'ai commencé à voyager, prendre le goût, voilà, de découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes. Et donc, au fur et à mesure, je suis allé plus vers le monde du voyage, le paysage, etc. Donc, que ce soit des paysages, l'Islande, par exemple, je suis allé 5 fois en Islande, tu vois, c'est vraiment, il y a des trucs qui me passionnent un peu plus. J'aime bien le froid, la glace. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu des projets. Je suis allé au Vietnam avec mon père et c'était un projet aussi qui m'a marqué humainement. c'est là où j'ai vraiment eu mon premier déclic en me disant waouh, la vie chez nous, c'est quand même cool. Tu vois, genre, c'est pas pareil de partout. On a quand même pas mal de chance des fois, il faut pas trop se plaindre. Et il y avait un moment en particulier au Vietnam où, donc moi, à ce moment-là, j'avais déjà mon 1DX Mark II avec un 70-200, qui a un gros zoom quand même. Et j'étais à une dizaine de mètres d'un petit Vietnamien. Et le gamin, il devait avoir 6 ans, quoi, tu vois. Il était assis à regarder l'horizon. Et tous les autres gamins, ils m'ont regardé parce qu'ils étaient curieux, tu vois. Ils disent, tiens, c'est qui lui avec ce gros appareil? J'ai jamais vu ça peut-être de ma vie.
Ouais, je pense que même à Paris, tout le monde te regarderait.
C'est ça. Les gens sont curieux, ils te regardent. Et ce gamin, en fait, il ne m'a jamais regardé. Et je ne l'ai pas pris pour moi, mais je me suis juste dit, en fait, comment ça se fait qu'il n'est pas curieux? À quoi il pense? Tu vois, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Et c'est là que je me suis dit, waouh, peut-être qu'il a des problèmes dans sa tête, peut-être qu'il est juste dans la lune, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, ça m'a marqué, ce moment-là, vraiment particulièrement. Et c'est là que je me suis dit, ouais, réalise que bon, la vie, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Et ensuite, il y a eu ce voyage à Madagascar, qui était un voyage qui a là, clairement changé ma vision de tout, de ce que j'avais envie de faire, de ce que j'avais envie de partager sur les réseaux sociaux. Un voyage où je pensais vraiment pas que ça allait être ça. Sur le coup, quand tu tapes Madagascar sur Internet, tu vois des baobabs, des lémuriens et 2-3 belles plages, tu vois, et des rizières. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, honnêtement. Les populations locales, tu ne vois pas trop, ou tu vois vite la misère de Madagascar. Et en fait, on est parti avec une super agence, My Expedition, et qui nous ont fait vivre un truc mais incroyable sur place. Et là, en fait, on est allé vraiment à la rencontre des populations. Et c'est là, de ce documentaire-là, que ça m'a donné envie de tout changer.
Ouais, c'est ça, parce qu'on en discutait tout à l'heure en off, mais en fait, tu as réalisé un documentaire quand tu étais à Madagascar, mais ce n'était pas du tout prévu à la base,
Non, en fait,
tu es tombé un peu amoureux de ce que tu as vu et tu t'es dit, ça. Ok, faut le documenter, faut faire quelque chose de ça, quoi.
Bah, j'étais parti avec mon pote Julien Oliva. On avait un partenariat avec l'aéroport de Marseille, on devait faire des photos pour eux sur place. L'agence sur place, on avait négocié un partenariat aussi, on leur faisait des photos.
C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu quelques images backstage de ce documentaire. Et j'allais dire, pour quelqu'un qui part à Madagascar sans se dire « Ok, je vais faire des photos et des vidéos », tu avais quand même beaucoup de matos.
Ouais, donc,
ça explique.
C'est ça. Après, moi, même en vacances, je pars avec un camping-car de matos. Quoi. Alors, je suis un peu fou sur ça, il faudrait que je me calme. Mais on était partis en soi faire que des photos. Et Julien, qui travaillait avec moi, on s'est dit « Bon, on va faire quelques vlogs un peu du voyage et on verra ». Et on commence à vivre le voyage. Et au bout de 2 jours, je lui dis, franchement, Julien, là, ce qu'on est en train de vivre avec les gamins et tout, c'est assez fou. Je ne sais pas du tout comment on fait un docu. Perso, je m'en fous. Je ne sais pas. J'ai dit, tu sais quoi, on va tout filmer. On va tout filmer et on verra bien. On en fera un truc, quoi. Et en fait, c'est ça. Il est sorti un film d'1h20, je crois. Et derrière, en fait, c'est pas un docu, tu vois, c'est un récit de voyage où chaque jour est détaillé. Et en fait, on a appelé ça Madagascar, un monde caché, pour éviter de montrer de la misère que les gens connaissent de Madagascar et plus ce côté caché que les gens ne connaissent pas. Et voilà, chaleur locale, les gens, même les animaux, on a vu des lémuriens, ça c'était fantastique et tout, les paysages. Et ça a été vraiment apprécié. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 800 000 vues dessus sur un truc avec zéro communication, tu vois, parce qu'on est tombé sur une population qui aime leur pays et qui en avait marre un peu de montrer toujours ce côté négatif de ce pays-là. Et en fait, ça aide en rien. Tu vois, le côté négatif, c'est bien de le montrer parce que ça alerte un peu et puis ça permet de résoudre certains problèmes. Mais à un moment, en fait, de montrer ça aussi, ça leur donne de l'espoir. Et en fait, j'ai tous les jours, mais quand je te dis tous les jours, des messages de gens qui me disent que Dieu te bénisse, etc. Vraiment des malgaches qui m'envoient ça. Et c'est fantastique. Les retours sur le film, ils sont incroyables. On a le retour du président de la République et tout là-bas. Enfin, c'est dit, Macron, tu fais un docu ici, il t'appelle pas, tu vois. Il s'en fout. Là-bas, tu vois, j'ai son fils qui m'a envoyé des messages et tout. Et on devait même faire une avant-première. Mais après, il y a eu le Covid là-bas avec, avec la présidence et tout. Enfin,
c'est un projet qui est sorti en 2020, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On l'a tourné fin 2019, sorti 2020, ouais.
Ok, ouais, mauvais timing par rapport au Covid. C'est mais ça. Bon, voilà, faut...
C'est ça. Mais bon, comme quoi, en fait, le fait de montrer un peu le positif, ça a plu au pays, ça a plu aux locaux, etc. Et en fait, c'est ce qui m'a donné maintenant envie de partager ce genre de choses. Malheureusement, c'est pas ce qui est toujours le plus apprécié sur les réseaux sociaux. Tu vois, pas apprécié dans le sens où ça va pas faire du like, ça va pas faire trop du partage, malheureusement. Mais moi, ça me passionne. Et en fait, j'ai pris ce parti pris de me dire, aujourd'hui, au lieu de partager ce qui fonctionne, je vais partager ce qui me plaît. Et ça va plaire à certaines personnes.
Ouais, ce qui est sûrement le plus important, c'est parce que tu le fais pour toi à la base quand même. Et...
Exactement.
Sauf quand c'est des commandes, mais là, toi, c'est pas ton cas, surtout sur ce projet-là, où c'est vraiment toi qui as décidé de démarrer ce projet une fois sur place.
Ouais.
Et donc, du coup, comment tu as fait d'un point de vue technique, peut-être un petit peu, tu partais pour faire des photos à la base.
Ouais.
Donc, tu avais ton boîtier, des flashs peut-être.
J'ai pas de flash encore.
Okay.
Là, maintenant, je commence à travailler le portrait au flash.
Si on était très lumière continue ou
Voilà, là, c'est que de la lumière naturelle, quoi, tu vois. Ouais. Et comme j'ai un boîtier qui fait photo vidéo, aujourd'hui, c'est un peu l'avantage. Ben, tu switches en 2 secondes et en fait, je faisais une photo, je faisais une vidéo et puis on avait tout, quoi. Donc, moi, je pars avec mon sac à dos. J'ai mon boîtier en objectif principalement. Je vais prendre mon 24-105 que j'utilise tout le temps. 70-200 et 16-35, tu vois, genre 3 objectifs.
Ouais, avec pour ça, t'as couvrir tout, quoi. Un petit
voilà,
peu.
Voilà, tu couvres tout, ton boîtier. Et puis après, sur place, j'avais aussi une GoPro. Donc en fait, j'ai fait toute une partie vlog, un peu où je parlais face cam avec ma GoPro, en fait. Ce qui me permettait d'avoir un truc ultra facile dans la poche et tout. Je courais avec les gamins, avec la GoPro.
Ouais, pouvoir sortir à tout moment la caméra et prendre l'instant présent à n'importe quel moment.
J'ai trouvé ce compromis-là qu'aujourd'hui, j'utilise encore. Tu vois, alors, je rajoute un petit media kit au-dessus pour avoir une qualité audio un peu meilleure, peut-être une petite torche des fois. Et en fait, voilà, ça fonctionne super bien. Et en voyage, c'est top. Ça te permet de faire même des plans grand angle géniaux. Tu vois, tu peux faire de la vidéo avec une bonne stab. Ça fonctionne bien, quoi.
Mais à ce moment-là, tu faisais déjà un petit peu de contenu. Enfin, tu faisais déjà complètement même du contenu voyage, etc.
Clairement,
hein,
ouais, c'est ça.
Ok. En fait, tu étais déjà rompu à l'exercice un petit peu.
Ce côté un peu avant où je partageais beaucoup de choses, ça ressemblait plus à un blogueur voyage.
Ok.
Tu vois, genre où tu avais la photo classique Instagram du petit personnage dans le décor, ce qui fonctionne très bien, que j'aime bien aussi. Mais en fait, dans le fond, j'avais l'impression qu'en faisant ça, je racontais moins de choses. Qu'on faisait un peu tous la même chose, tu vois. Alors après, tu vas me dire un portrait animalier, d'autres photographes animaliers font la même chose, mais dans le fond, ça raconte plus quelque chose que me positionner moi avec ta copine au bord d'une cascade. C'est bien, c'est cool. Enfin, aujourd'hui, je le fais, je vais le partager une fois de temps en temps parce que c'est cool, ça me fait plaisir aussi de mettre en avant la personne avec qui je vis, etc. Mais je vais pas dire, tiens, ça c'est mon business model, c'est fini en fait. Voilà.
Ouais, bien sûr. Ok. Et donc, du coup, maintenant, tu es vraiment plus parti sur le côté documentaire, même si j'ai compris qu'aujourd'hui, toi, tu te défends pas d'être professionnel
Métier,
du documentaire.
C'est ça,
ouais. Voilà, c'est pas ton métier. Mais en tout cas, tu vas de plus en plus vers cette voie-là.
Ouais.
Et du coup, tu as terminé un projet il y a quelques mois, ou c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises.
On a terminé le tournage, mais pas le montage.
Ah, vous avez pas Ok, ça marche.
C'est ça, ouais, ça s'appelle Osiligi.
Ok.
Donc, c'est un tournage qu'on a tourné au Kenya. Un documentaire, ouais. Et en fait, le concept, donc, comme tu as dit, voilà, je ne suis pas professionnel du monde du documentaire, mais j'ai en gros cette vocation de le devenir parce que ça me plaît, ça me passionne. Et comme tout, il faut pratiquer pour apprendre. Tu vois, j'ai acheté des livres aussi pour me former là-dessus. Je regarde des vidéos, des tutos pour me former aussi dans ce monde du documentaire, pour comprendre un peu les codes. Parce que dans ce truc de Madagascar, il n'y a pas de code, il n'y a rien, quoi. Mais ça a été apprécié.
Ouais, tu l'as fait un peu au fil de l'eau. Voilà. Tiens, il y a ce truc-là. Tiens, on va faire une interview, on va faire un portrait. Et après, tu montes avec ce que t'as, quoi.
Il n'y a rien. Tu vois, genre, j'avais pas de micro, j'avais pas tout ça, quoi. Donc, en fait, on pouvait pas même faire ça.
Ah, c'est vraiment juste du beauty.
C'est ça. Donc, comme j'ai pas ces codes-là, j'essaie de les apprendre. Et comme on sait aujourd'hui, si tu veux vendre ça en télé ou quoi, il y a au moins quelques codes à respecter. Même si ça commence à changer un peu, on commence à comprendre que les vidéos qui partagent les gens sur YouTube, ça fonctionne pour du grand public et pourquoi pas en télé. Mais il y a quand même 2-3 codes à respecter que je ne connaissais pas du tout, que je commence un petit peu à connaître, que je ne maîtrise pas encore. Et en fait, le Kenya, c'était un peu un test. Encore une fois, je ne sais pas ce documentaire s'il sera visible sur ma chaîne YouTube ou si on arrivera à le vendre parce que les gens vont se dire « Ah ouais, ok, c'est bon, il y a les codes suffisants. »
Il y a quand même une envie de ta part d'aller vers un diffuseur un peu plus classique.
Ouais.
Et d'aller chercher, je dis n'importe quoi, France Télévisions pour diffuser ça.
J'espère parce qu'en fait, quand je me dis que Madagascar, avec zéro préparation, ça a plu aux gens, tu vois, où on est parti complètement à l'arrache. Là, celui-là, c'est un projet que, pareil, là, j'ai autofinancé. On est parti avec, je suis parti avec 3 personnes de mon équipe. Donc, une personne qui cadrait, on va dire, toute la partie un peu, en général, tout ce qui se passe, tu vois, caméra à l'épaule. Un gars qui faisait toute la partie donc Hervé qui gérait toute la partie toutes les plans en général, Jérémy qui faisait les beauty shots un peu des gens autour, etc. Et j'avais Nicolas aussi qui lui faisait un peu la partie backstage, et moi en plus. Donc ça, c'est ce que je veux amener, c'est que le en soit le présentateur en soi dans l'épisode, dans le documentaire, soit aussi réalisateur et que tu vois les images de cette personne.
D'accord.
Voilà, donc je ne veux pas juste être présentateur, en fait, mais être aussi la personne qui réalise certaines images que tu es en train de voir.
Ouais, bien sûr.
Voilà, donc ça, c'est important.
Ok, et donc du coup, là, sur ton équipe, donc c'est toi qui fais la prod aussi.
Ouais.
En plus d'être...
ouais, c'est un boulot de
fou. Ouais, là, il y a beaucoup de casquettes, là.
Tout, les billets d'avion, le machin. Enfin,
et alors, si c'est pas indiscret, et puis au pire, on le coupera, mais financer, auto-financer un projet comme ça, c'est quelle échelle, c'est quelle fourchette?
C'est 20 000 euros minimum.
C'est 20 000 euros, ok.
Là, le voyage.
Okay.
Donc, c'est 20 000 euros, et après, tu calcules pas le temps de post-prod ou sur lequel tu travailles pas sur d'autres projets.
Évidemment. Donc et c'est toi qui t'occupes de cette partie post-prod aussi ?
C'est ça.
Ok. Tu t'occupes de l'étalonnage, le montage, tu fais tout de A à Z ?
Ouais. Okay. Bah là, le dérochage, il y avait bout à bout maintenant d'images utiles. J'ai 16 heures d'images utiles.
Ouais, ça fait un gros ours,
principalement,
ça.
Ouais, c'est principalement que des beauty shots, donc c'est dur à enlever.
Ok.
Pour en faire un 52 minutes ou quoi, tu vois, c'est... Voilà, donc ça prend du temps. Moi, j'ai mon pote Hervé qui, lui, crée toute la musique aussi derrière. On veut vraiment créer un truc qui est 100% créé chez nous, tu vois. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps, on a plein de projets derrière, donc je le mets en stand-by tous les jours. Malheureusement, c'est très compliqué de me remettre dessus parce qu'il y a plein de choses qui tombent et des choses dont tu as besoin pour vivre, parce que monter ça,
ouais, ça te rapporte pas d'argent aujourd'hui, ça, donc
si demain tu me dis je le vends tant, ok, je peux l'amortir parce que je travaille pas, vas-y, mais là pour le moment il va finir sur YouTube, quoi, à l'instant T.
Oui, aujourd'hui, on sait que, et c'est de plus en plus le cas, ça devient difficile de vivre uniquement avec des vues sur YouTube. C'est
ou alors, il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup de vues, ou il faut se consacrer qu'à ça, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai plein de choses autour qui font que je n'ai pas le temps de me consacrer à créer du contenu YouTube pour gagner ma vie via YouTube.
Ok. En fait. Ouais, donc il y a vraiment une volonté là de ce documentaire-là, réussir à le vendre.
Soit de le vendre, soit vraiment c'est un kiff personnel. Tu vois, voilà, c'est parce que je l'ai pas fait à la base, il était vraiment fait pour être sur YouTube.
Ok.
Et je l'ai pas fait à la base en me disant, tiens, je vais le vendre, on va gagner tant d'argent ou quoi. En fait, je l'ai fait pour me faire une carte de visite, vraiment, et me dire, grâce à ça, ça va peut-être me permettre de rentrer dans le monde du documentaire.
Et alors, du coup, justement, pour toi qui n'as jamais mis les pieds là-dedans, c'est quoi les barrières auxquelles tu fais face aujourd'hui en te disant, ok, je vais aller toquer aux portes des diffuseurs, des prods, des...
C'est les contacts.
Des distribs, ouais, c'est les contacts.
Fait, c'est vraiment un monde ultra fermé. Pour avoir testé avec certaines boîtes de prod où en fait on avait déjà des bonnes idées et tout. Au début, ils m'ont dit, t'as pas les codes. Je dis, ok, mais bon, travaillons-les. Tu vois, genre, apprends-moi les codes et on y va, quoi. Parce que je pense que faire des images sur place, je suis capable de le faire. Mais après, voilà, j'avais pas ces codes-là et ce qui m'a fermé des portes à un moment. Et puis, il faut le moment où il y a quelqu'un qui veut te faire confiance. Tu vois ? Et en fait, c'est ça qui est très dur aujourd'hui, c'est que je me dis, moi, avec mon expérience quand même derrière, le nombre de marques avec qui j'ai travaillé, les followers et tout,
on pourrait penser que c'est assez simple pour toi, parce que du coup, tu as déjà le réseau et en fait, tu te prends les mêmes portes que tout le monde.
Ce qui me fait peur, c'est pour les gens qui ont moins d'expérience, qui ont moins de followers, etc. Et en gros, ben, eux, tu dis, mais enfin, c'est foutu pour toi. Tu vois ? Déjà, pour moi, c'est foutu, alors pour toi, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est dommage dans ce milieu-là, c'est qu'il y a très peu de gens qui veulent te donner ta chance, et alors que moi, je suis des gens qui ne sont pas du tout beaucoup suivis, tu vois, et qui font un travail extraordinaire et qui mériteraient de travailler pour plein d'autres marques, quoi, tu vois, et de créer des belles choses. Il faut que les gens au-dessus, les grosses boîtes et tout, donnent un peu la chance à ces personnes-là, et, parce que vraiment, ça vaut le coup, quoi, des fois.
Ouais, j'imagine, ouais. Bon, après, il ne faut pas non plus déprimer peut-être les gens qui nous écoutent. C'est toujours possible, mais c'est vrai que...
Le monde du documentaire et de l'animalier, par exemple, voilà, c'est quand même un domaine, il faut être franc. Quand des gens me disent, est-ce que tu vis de la photo animalière ? Je dis, non. Et les photographes qui vivent de la photo animalière, c'est des gens qui ont quand même un bon petit réseau, qui vont avoir des contacts avec des lieux pour faire de l'exposition, pour vendre des photos à un tarif quand même assez onéreux pour pouvoir vivre derrière, qui vont faire un livre, qui... Mais si tu
en fait, il y a plein de bah ouais, ça c'est sûr.
C'est ça.
Mais en fait, du coup, tu es obligé de diversifier un petit peu ton contenu pour pouvoir réussir à en vivre avec tes différents produits. Et sur ce projet-là, du coup, tu me dis que vous êtes parti à 4. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous bossiez avec 4 boîtiers, vous tourniez les 4 en même temps. C'était quoi un peu l'orga sur place?
C'est ça. Moi, j'avais un boîtier où je faisais vraiment que du beauty shot, mais à la fois, je faisais photos et vidéos.
Ok.
Et Jérémy, qui lui était principalement au stead à faire des beauty shots. Hervé,
quand tu dis au stead, c'est Steadicam, Steadicam ou tu parles d'un Ronin?
Ouais, Ronin. Ouais, on part toujours quand même avec du matos assez léger quand même. Tu vois, on part pas avec une grosse cam de cinéma ou des choses comme ça. On filmait avec un R5, R6, des petits boîtiers, on va dire comme ça. Hervé, lui, était avec une C70, donc plus une vraie caméra cette fois-ci qui fait pas de photos, avec un micro dessus pour pouvoir capter un peu tout ce qui se passe. Et Nico, lui, qui faisait de la photo derrière, backstage, et des montages pour tous les jours, quoi.
Ok. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant, parce qu'on a reçu dans le podcast, du coup, Julien Fèvre, dont je te parlais tout à l'heure, qui est chef opérateur spécialisé en documentaire animalier aujourd'hui, et qui, lui, part sur des docus avec une Sony Venice sur EasyRig, enfin des configs complètement tarés. Et c'est vrai qu'on pourrait vite croire, quand on va regarder cette personne-là travailler, son Instagram avec ses photos backstage, on va vite imaginer, ok, pour réussir à faire un documentaire de qualité, je vais avoir besoin de ce matériel-là. Alors qu'en réalité, bah pas forcément. Et bon, t'es quand même très bien équipé, hein.
Bien sûr.
Tu pars pas avec un iPhone, mais c'est comme quoi on peut faire des contenus archi quali et réussir à créer vraiment quelque chose qui va être regardé derrière, sans avoir besoin d'avoir.
Je pense qu'en fait, le problème, c'est que les gens pensent toujours que le matériel est un frein, mais en fait, alors c'est sûr que tu veux faire une belle photo d'un portrait d'un lion à 200 mètres. Si tu te retrouves avec un 14 mm, ça va être compliqué.
Ouais, tu vas un peu risquer ta vie pour aller la faire.
Voilà, si t'as pas un zoom, là, techniquement, tu vas pas y arriver. Donc oui, le matériel a ses limites, mais tu vois, à un moment, là, quand je vois les images qu'on a tournées avec un petit boîtier, enfin, tu me dis, on a tourné ça avec une grosse cam ou avec un petit boîtier, il y en a plein qui sauraient pas faire la différence. Tu vois, un vrai professionnel de l'image qui connaît le rendu. Tu vois vraiment d'un boîtier, va dire oui, ok, c'est tourné avec ça. Mais le commun des mortels qui va regarder le truc.
Oui, mais c'est ça. La question de la diffusion se pose aussi. Si derrière tu vas diffuser sur YouTube où les gens vont regarder peut-être le contenu sur téléphone ou tu vas le projeter en salle, au cinéma, c'est quand même deux diffusions complètement différentes. Bah,
pour donner l'exemple, par exemple, Madagascar, on l'a tourné en Full HD.
Ok.
Et parce que je voulais faire du 100 images secondes, donc mon boîtier faisait que de Full HD 100 images secondes. Maintenant, mes boîtiers permettent de faire 4K 100 images secondes. Et sur place, pour les gens qui connaissent un peu, quand tu filmes en 4K, ça prend énormément de place sur les cartes mémoire, sur les disques durs, donc c'est pas la même organisation. Et en fait, ce film, quand je le montrais aux gens en Full HD, qu'on l'a diffusé en salle parce qu'on avait fait deux avant-premières pour récolter des fonds pour une asso, les gens disent « Ah putain, trop bien le film en 4K et tout. » Non, c'est de la Full HD. Tu vois, donc si derrière tu fais une belle petite colo, que tu arrives à ramener un peu les couleurs, les contrastes et tout, t'as 2-3 qui se cassent les dents, tu vois.
Et
on a tourné ça en Full HD, donc la résolution...
Ouais. Les boîtiers aujourd'hui te permettent d'avoir une profondeur de retouche, d'étalonnage qui est quand même assez poussée. Et du coup, en fait, ça joue, quoi.
Exactement.
J'adore. Moi, je trouve ça trop bien parce que c'est vraiment la preuve que, en fait, à partir du moment où tu as l'envie, tu peux le faire. Il y a pas
En fait, tu vois, peu importe, tu as filmé en 720p, mais si ce que tu as montré, c'est beau, que tu racontes quelque chose, vaut mieux avoir filmé en 720 un truc qui est magnifique qu'un truc en 8K qui est trop laid, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc maintenant, il faut arriver et c'est mon but à raconter des choses. Là, c'est plus compliqué.
Ouais, bien sûr. Et du coup, juste avant d'arriver sur ce point-là, pour rester un peu sur la partie technique pour l'instant, comment tu t'organises, comment tu as organisé ce projet-là où vous partez du coup à quatre, chacun avec votre boîtier, vos objets, tout le matos qui va avec. Comment ça s'organise d'un point de vue logistique?
Alors, sur place, il y avait deux guides, dont un Français qui est un très bon ami maintenant, Valentin Lavis, donc qui est un guide professionnel en Afrique, qui lui va gérer toute la partie prod sur place, les lodges, etc.
Okay. C'est un prod exé, en fait.
Voilà, qui connaît. Et c'est grâce à lui qu'on a eu accès à certaines choses dont on va sûrement parler après. Mais voilà, donc ça, c'est sa partie-là. Après, tout ce qui est matos, nous, on fait notre checklist avant de ce dont on a besoin. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'un million de choses. Tu vois, là, quand... Moi, au niveau des objectifs, je t'ai dit tout à l'heure, les bases de ce que j'utilise. Après, j'avais un 400 mm de 8 que m'avait prêté Canon parce que là, voilà, il fallait un peu de zoom, etc. J'avais un multiplicateur qui me permettait de passer en 800. Mais j'avais pas plus que ça, moi. Alors, j'avais deux boîtiers, parce que ça, c'est un spare, au cas où. J'avais moins un DX et un R5, parce que je me suis dit, s'il y a un truc qui claque au milieu, là, t'es foutu.
Ouais, c'est ça, parce que là, t'es quand même en autoprod, donc c'est toi qui gères tout. Si demain, t'as un problème, t'as pas une prod qui est à Marseille et qui peut te dire, ok, y a pas de souci, on t'envoie tout de suite un truc, tu l'auras dans 2 jours.
Au milieu du Masai Mara.
Et puis, ouais, voilà, y a quand même vite une problématique, quoi.
C'est ça, même acheter sur place, tu vois, enfin... Nairobi, c'est super loin. J'ai envie de te dire, il te manque une carte SD qui est très courante. Ça se trouve même dans un supermarché, mais après, bon, tu filmeras sûrement pas en 4K 100 avec. Mets un lecteur de carte CFast ou CF Express parce que tu as juste perdu ton lecteur, bah, t'es foutu. Tu vois, en fait, le moindre petit truc peut être fatal. Donc, bah, souvent, on a des spares où on utilise souvent les mêmes cartes, donc bah, plusieurs personnes donc un lecteur de cartes. En fait, tous ces petits trucs-là, il faut vraiment checker au départ parce que tu peux oublier un seul câble. Si tu oublies le câble pour décharger ta carte,
ah, t'es mort. Ouais.
T'es mort. Tu vois, quand tu fais... moi, je faisais presque 200-400 gigas par jour minimum.
Ah, putain.
Et donc, si tu oublies de décharger, à un moment, j'ai pas un nombre de cartes indéfini. Donc, j'ai plein de disques durs, mais si je peux pas décharger... Là, je suis foutu. Donc, en fait, tout ça, ça, il faut y penser. Parce que le moindre, tu peux avoir tous les boîtiers du monde. Si tu oublies ton câble pour ton lecteur de carte,
t'es foutu. Ouais.
Voilà. Donc, c'est juste un exemple. Mais...
Et ça demande encore plus de prépa, je pense, dans un cas comme le tien où tu autoproduis un projet, où vous n'avez pas une équipe de 20 personnes avec un assistant cam qui va être là pour faire le dérochage, qui va s'assurer que tout est bien backé sur les disques, etc. C'est-à-dire que c'est toi qui dois tout gérer de A à Z.
C'est ça.
Donc là, ça demande quand même une préparation assez
c'est
lourde.
Clair. C'est clair. Ouais. Même le soir, tu vois, on dérochait tout avec des spares en disque dur aussi, au cas où il y a un disque qui claque ou quoi. Enfin, moi, tous les soirs, je retouchais les photos de la journée. Ça demandait un boulot de fou, quoi. Parce qu'en même temps, on est présent sur le réseau. Donc, il y avait Nico, lui, qui faisait des backstage qu'on partageait en story. Moi, je retouchais les photos que je partageais après sur les réseaux. Enfin,
Justement, vu que tu parles du partage au fur et à mesure du tournage sur les réseaux, ça, c'est vraiment une dynamique qu'on voit de plus en plus aujourd'hui et qui joue à la promotion des contenus qu'on va créer.
Ouais.
Et donc, justement, toi, aujourd'hui, comment tu travailles la diffusion, enfin la promotion de tes œuvres sur YouTube? Ça en fait partie, j'imagine, toute cette partie backstage que tu amènes en amont. Et c'est quoi un petit peu les grandes étapes?
Bah, tu vois, par exemple, quand ils vont tourner un film au cinéma, etc., tu vois jamais de backstage, ils n'en parlent pas trop, en fait, les gens, ils cachent un peu les choses. Bah, nous, je trouve qu'en fait, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va vraiment te communiquer en direct ce qu'on est en train de tourner, ce qui se passe.
Bah, ça arrive souvent après, voilà. dans la fiction aujourd'hui.
Ça arrive après, quoi.
Voilà, après, ouais.
Alors que nous, en fait, on va le diffuser en direct, et en fait, c'est, on va dire, un premier teasing, tu vois, parce que les gens sont intéressés. En même temps... C'est une obligation, c'est-à-dire que nous, quand on est présent sur les réseaux sociaux, si de 15 jours, tu partages rien, c'est bizarre. Tu vas te dire, qu'est-ce que tu fais, quoi. Mmh. Et en fait, bah, en même temps, bah, ça t'aide à toujours être présent sur les réseaux. Deux, ça te fait teaser sur ton produit. Et puis après, bah, quand tu rentres, bah, tu as plein de photos à partager, des petits extraits vidéo. Et donc, bah, tout au long, là, c'est ce que je fais. Je partage plein de photos encore du Kenya, de la Zambie, etc. Jusqu'au jour où le docu va sortir. Et bah, donc, en fait, tu as un fil conducteur du moment où je suis allé tourner jusqu'au moment où il va sortir, quoi.
Ok, donc aujourd'hui, toi, la communication de tes projets, c'est vraiment, enfin la promotion de tes projets,
ouais.
C'est vraiment principalement ce partage de contenu sur tes réseaux personnels.
C'est ça.
Et sur celui des gens qui ont bossé avec toi sur le projet, j'imagine.
Ouais, exactement.
Ok. C'est intéressant parce que c'est vraiment une façon de faire qui est très différente du.
Après, peut-être certains vont dire non, je préfère garder ça secret et boum, d'un jour au lendemain, tu sors tout. Oh, qu'est-ce que c'est, tu vois? Il y a plusieurs façons, ça marche pas, tu vois. En fait, moi, je me dis, j'ai plein d'images qui me plaisent. C'est dommage de ne pas les partager maintenant, sinon j'aurais rien à partager aussi. Tu vois, c'est ça, quoi.
Ouais, bien sûr. Et du coup, j'ai complètement perdu le fil d'officiel des questions. c'était sûr. Je regarde juste ce qu'on avait
Qu'est-ce
mis
qu'on
là.
A fait pendant ce docu, non? C'était pas ça,
Ouais, je suis assez curieux de rentrer un petit peu dans le détail de ce documentaire-là. Ça a été quoi un petit peu les grands sujets que tu as traités et comment tu les as bossés?
Alors moi, voilà, au fur et à mesure, j'ai envie d'avancer sur les animaux. Ça me passionne de plus en plus. Et en fait, c'est tout bête, mais depuis que j'ai mon chat, ça me passionne de plus en plus. Les gens vont peut-être pas comprendre.
Ouais, parce que pour regarder ton Instagram de temps en temps, c'est quand même chats. D'autres types d'animaux
c'est
d'autres
que
types tu de suis. Ouais, voilà.
En fait, c'est tout bête, mais le fait d'avoir eu un chat, c'est un félin. Et ben en fait, m'a fait énormément apprécier le félin en général. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller au Kenya, etc., bah, découvrir les vrais félins qui font peur, quoi, tu vois, et ben c'est autre chose. Et en fait, tu retrouves toujours le comportement du chat dans un lion, un léopard, un guépard. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment passionné. Et de là, bah, je me suis dit, j'ai envie que bah, mes réseaux servent à quelque chose. Et... au lieu de faire des vidéos pour des marques et de me dire bah, ça me sert à moi parce que je crée du contenu financièrement, je gagne ma vie, eux se développent et font de la com, Ben, j'ai envie de créer un produit qui me sert à moi, peut-être à une marque qui va sponsoriser le projet, et en même temps, ben, aux animaux, à des humains, à une cause, tu vois. Et donc, en fait, techniquement, je gagne la même chose qu'avec un autre projet pour une marque, parce que je vais peut-être gagner ma vie. Alors là, sur ce projet-là, non, parce que c'est autofinancé, mais mon but, c'est d'arriver à les faire financer. Et donc, de me dire, ben, je vais gagner ma vie, une marque va me sponsoriser pour faire un peu de placement de produits, ce qui va faire vivre le projet aussi, et en même temps, on va aider une cause et possiblement la cause animale. Donc là, en fait, voilà, c'était le projet d'aller parler de deux choses, donc des animaux un peu en général et principalement des deux derniers rhinocéros blancs du Nord qui existent et qui sont à Olpejeta, donc une réserve au Kenya. Et donc, en fait, le gros problème, bon, on pourra découvrir après la solution dans ce documentaire, mais c'est que c'est deux femelles. Et donc, en fait, bah, techniquement, je pense que tout le monde peut comprendre qu'il va y avoir un problème pour qu'il y en ait un troisième. Et donc, en fait, ils sont en train de trouver une solution via le dernier mâle qui est décédé en 2018, si je ne me trompe pas, pour bah, pouvoir créer un nouveau rhinocéros blanc du Nord.
OK.
Voilà. Donc, c'est un énorme projet. C'est un projet qui leur coûte, je crois, 1 500 000 euros à l'année. C'est énorme.
Toi, c'est comment ce sujet t'est venu? Parce que c'est quand même assez particulier. Je savais pas. Enfin, tu vois, moi personnellement,
j'en ai parlé avec le guide Valentin, où je leur ai dit voilà, toi, est-ce que tu connais des endroits qu'on peut aider? Est-ce qu'il y a des causes qui sont aussi intéressantes à montrer, etc. Et donc, il m'a parlé de plusieurs choses, dont celle-là. Et comme je rêvais d'aller au Kenya, eh bien, je me suis dit vas-y, feu, ça c'est génial, on y va, quoi. C'est un bon sujet.
Ok. Voilà. Ouais, ça, parce que j'aurais jamais eu l'idée de me dire tiens, le rhinocéros blanc.
Et... c'est ça, non, mais c'est sûr. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, c'est inconnu. Donc, la plupart des gens.
Donc, il y a un vrai intérêt de le mettre en lumière.
Ouais. C'est ça, ils ne font pas la différence entre un rhinocéros blanc du nord ou du sud ou un rhinocéros noir, tu vois. Et en fait, là, quand tu t'approches de ces deux bêtes et que tu te dis ah oui, en fait, c'est les deux derniers du monde. Et en fait, je pense que très peu de gens dans le monde se sont approchés d'une espèce en se disant. Celle que je suis en train de voir, il n'y a plus rien d'autre autour qui existe, tu vois. Mmh. Et là, nous, on a eu la chance de pouvoir les approcher, les toucher, etc.
Ouais, il y a cette vidéo incroyable que tu as postée sur tes réseaux sociaux où tu t'approches justement d'un des deux pour la caresser. C'est juste...
Exactement. Là, c'est inexplicable comme sensation. On a une vidéo qui est dans le teaser où tu vois les trois, parce qu'il y en a un troisième derrière, mais qui n'est pas un rhinocéros blanc du Nord, qui les trois marchent vers nous. Ça te fout un truc dans le cœur, vraiment. Déjà, juste la vidéo, quand tu la regardes, mais quand tu es sur place, tu dis waouh, c'est la puissance de l'animal, tout quoi.
Ouais, ça doit être autre chose. Ouais,
c'est incroyable.
Si je suis impressionné derrière mon téléphone dans le métro, c'est que normalement, quand tu l'as vécu en vrai, c'est vraiment un truc de dingue.
Ouais. Sur place, c'est fou.
Et du coup, sur tous ces projets-là, en fait, à chaque fois, toi, tu pars avec le même matos et en fait, c'est vraiment un peu. Au fil de l'eau, en fait, que tu fais ces projets-là, ou là, celui-là en particulier, tu l'avais vraiment scripté en amont?
Lui, on l'avait quand même scripté, parce que mon but, là, c'était de créer un docu digne d'un nom de docu, tu vois, vraiment pas comme Madagascar. Et donc, il fallait prévoir un peu plus les choses. Je pense qu'on les a pas assez prévus, dans le fond, quand je fais le montage, je me dis, tiens, il manque peut-être ça, mais bon, ça tient quand même la route, quoi.
Et du coup, c'est super intéressant, c'est quoi comme c'était ton... On peut dire ton premier vrai projet de documentaire, vu que l'autre était un peu projet surprise.
Exactement.
C'est quoi les grandes erreurs que tu as faites sur ce projet-là et qu'aujourd'hui tu te dis, OK, bon, là je les ai faites, celle-là je ne les ferai pas pour le prochain?
Je pense qu'il manque d'interviews. OK. En fait, tu vois, même si on en a beaucoup, et je pense qu'il y a des interviews qu'on a trop prévues, peut-être. En fait, parce que je me disais, j'ai besoin qu'on dise ça, qu'on dise ça.
Et en fait. Pour aller dans le sens de ton script.
Ouais. En fait, je pense que c'est ça. C'est dire que comme je voulais vraiment respecter un fil conducteur, je me suis dit, il faut qu'on réponde à telle ou telle question. Donc, chose qu'on a. Mais en fait, c'est souvent quand tu as un peu de l'inattendu dans des questions, etc., que ça va t'apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense que c'est ça qui manque. Et je me dis que pourquoi pas, même avec mon ami guide, parce qu'en fait, tous les deux dedans, on est interviewés tous les deux par rapport à ce qu'on vit, etc. Et je me dis que peut-être aujourd'hui, on devrait retourner ces deux interviews de lui et de moi en me disant OK, allons plus large. Et grâce à ça, on va étoffer encore plus le docu. Et pas grave que ce ne soit pas tourné sur place, tu vois. En fait, ça, ce n'est pas très grave. Mais au moins, ça sera peut-être. On aura un recul plus important sur le docu et on va peut-être développer plus de choses. Tu vois, donc ça, je pense que c'est un peu mon regret sur place, mais bon, à savoir que techniquement...
Ouais, ça peut se refaire. Voilà. Ça peut se refaire.
C'est ça. Après, okay. Au niveau des images sur place, on a ce qu'il faut. Vraiment, on en a trop. On en a trop, ouais, ouais. Donc ça, ça va.
Et alors, comment on fait le choix, justement, quand on a... Je sais plus, tout à l'heure, tu as dit le nombre d'heures que tu as de rush ouais. exploitable.
Bah, piquer collégramme, quand même. Ah, genre, on y va. Non, je... non, c'est très, très compliqué, honnêtement, parce que y a plein d'images qui nous plaisent. Pour le teaser par exemple, le teaser il est peut-être un peu long, mais parce que j'arrivais pas à dire non, quoi, tu vois. C'est mais ouais, c'est très complexe.
Ok, ouais, t'as pas vraiment développé une technique de travail après tous tes voyages où t'as dû à chaque fois faire ces choix super difficiles de dire putain, tout est beau, comment je fais pour virer ces plans.
Bah, après, faut à un moment, faut y aller, quoi, tu vois. Faut se dire, ok, bon, bah celui-là il est beau,
mais qu'est-ce qu'il raconte,
voilà, est-ce qu'il raconte un peu plus que l'autre, et donc. Maintenant, je vais peut-être plus privilégier le plan qui raconte quelque chose que le plan esthétique, même si on a essayé de faire que des plans quand même qui esthétiquement sont intéressants. Mais voilà, s'il y a un plan super esthétique, mais dans le fond, tu dis, ça sert à rien, bah, il sert à rien, quoi. Genre, ouais, je le mets pas, quoi, tu vois, tout simplement. Et je préfère un plan peut-être qui tremble à un moment, mais te dire, ah ouais, mais ce plan-là, il raconte exactement ce que je veux, tu vois. Bah, c'est pas grave, on met ça. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que tu vas choisir.
Ouais, favoriser le... Tu as vraiment favorisé en fait le fond plutôt que la forme,
ouais,
de tes plans. Ouais.
Exactement. Maintenant, ouais, je pense que c'est le plus important. Et honnêtement, des fois, tu vois les docus, tu dis, wow, l'image, elle n'est pas folle. Mais en fait, derrière, elle dit tout, quoi.
Mais surtout que sur le docu, tu as cette difficulté d'avoir l'instant ouais, présent et tu ne vas pas demander au rhinocéros de refaire ce mouvement-là.
C'est pour ça que là, il faut être... En fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai acquis grâce au sport extrême, à l'événementiel et tout. C'est être ultra réactif. Et se dire qu'aujourd'hui, même j'arrive à switcher photo et vidéo en 2 secondes et avoir les deux moments en photo et en vidéo. Et comme je le voulais, tu vois. Parce que, en fait, c'est vraiment de la pratique, de la pratique. Et quand je vais filmer un événement aujourd'hui, même principe, je ne vais pas réfléchir à beaucoup de choses. Je sais ce dont j'ai besoin, ce qui fonctionne pour faire un montage d'un événement de A à Z, tu vois. Et en fait, vite, tac, 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 tu vois les trucs, tu regardes autour de toi. Et là, c'est un peu le même principe. Il faut être réactif, les réglages, il faut qu'ils soient bons, ton filtre, il faut qu'il soit mis, tu vois. Genre, et il faut y aller, quoi. Si tu bégayes, en fait, devant avec ta caméra, tu dis, ah non, mais mince, c'est quoi, c'est ça, c'est quoi comme réglage.
Ouais, ouais, il faut être préparé à tout et pouvoir shooter immédiatement pour avoir la bonne image, quoi.
C'est ça. Donc ça, voilà. C'est pour ça que tout mon passé, on va dire, me sert énormément là-dessus pour que, en fait, techniquement, je ne me souviens pas d'un moment que j'ai complètement raté parce que j'étais pas prêt. Tu vois, après, il faut être ultra concentré. Et puis, si tu es passionné, tu vois, tu n'es pas dans la voiture à dormir, à regarder ton téléphone. tu regardes de partout, tu dis, ah, t'as le boîtier, il est toujours autour du cou. Et boum, vite.
Ouais, toujours prêt à shooter. Ouais.
C'est ça.
Et alors, du coup, est-ce que quand tu bosses justement avec deux boîtiers, peut-être avec un objet, une longue focale et une focale plus courte?
Là-bas, pour c'est ce que j'avais. Ouais. Ouais. Alors, en soi, j'avais mon spare, parce que je me suis dit, au cas où, s'il y a un des deux boîtiers, ouais, qui ne fonctionne plus.
Mais tu les utilisais en même temps, en fait.
C'est ça. J'avais le 400 mm sur le R5 et j'avais 70-200 sur l'autre.
Ok.
Donc, tu vois, 400 mm, à un moment, s'il se rapproche, t'es battu.
Ouais, bien sûr.
Tu
ouais,
vois, donc 70-200, c'était top, quoi.
Ok, ouais, et puis ça t'évite de perdre le temps de, ok, faut démonter, non. Ouais. Surtout que t'es dans peut-être un milieu qui est hostile au boîtier.
Il y a plein de trucs, voilà, ouais, exactement. Bon. Donc, ouais, ouais.
Ok. Et. Justement, bon, là, vu que tu nous reçois chez toi, on est entouré des photos que tu fais.
Ouais.
On peut voir derrière moi, c'est un
guépard.
Un petit guépard.
Un
bébé guépard. En face, j'ai des manchots, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, des éléphants à droite. Il y a vraiment plein d'environnements différents.
Ouais.
De tous ces voyages-là, est-ce qu'il y a un tournage en particulier ou un shooting photo qui t'a plus marqué qu'un autre, une expérience qui t'a plus touché qu'une autre?
Un des derniers, c'est l'Antarctique, quoi. Honnêtement, en fait, on a atteint un endroit que personne au monde n'a atteint et potentiellement, et ils n'y retourneront jamais pour préserver, en fait, cette colonie. On a découvert une colonie de manchots empereurs. Et en fait, cette colonie, en 2013, elle a été aperçue par des satellites. Donc, ils savaient qu'elle était là. Et nous, grâce au bateau qu'on avait, on avait la possibilité de pouvoir passer à cet endroit-là. On a une chance météorologique qui nous a permis, en fait, la glace est ouverte. Donc, le bateau est passé et a pu revenir sans problème. Un autre bateau ne pourrait pas prendre le risque d'y aller parce qu'en fait, techniquement, on aurait pu briser la glace pour revenir si elle se refermait derrière nous. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a pu y aller parce qu'on savait qu'on pouvait revenir au cas où s'il y avait un problème. Là, il n'y a pas eu de problème, donc on est allé venu simplement. Et en fait, on a découvert une colonie de manchots empereurs où normalement, les gars sur le bateau, ils te disent si vous envoyez 4 des manchots empereurs dans votre voyage, c'est fantastique. Là, on en a vu 5000. Voilà. Et il y avait les bébés. Il y avait voilà, les bébés manchots empereurs. Et là, moi, j'ai pleuré sur place, tu vois, honnêtement. J'ai une émotion énorme en me disant que c'était absolument mon rêve de voir ça. Et en fait, je ne réalisais pas au départ que ce n'était pas possible de voir ça. Je pensais que je n'ai pas posé la question en me disant on va voir les bébés, on va voir plein de manchots empereurs, c'est normal, tu vois.
Ouais, on arrive là-bas, c'est le zoo, quoi, un petit
c'est
peu,
ça.
Entre guillemets.
Et en fait, le mec, il dit non, mais tu vois des manchots à Delhi, tu vois d'autres espèces de manchots, parce qu'il y en a beaucoup, mais des manchots empereurs, c'est très rare. Et là, quand on voit 5000, en fait, tu ne réalises pas sur le coup. Et que tu as le capitaine qui te dit, mais moi, ça fait 150 fois que je suis allé en Antarctique,
j'ai jamais vu
ça de ma vie. Et toi, tu vas une fois, il fait grand bleu, et tu dis, non, mais attends, c'est quoi ça, en fait? Tu vois, et tu réalises après, quand les deux commandants te disent ça, tu dis, non, mais attends, en fait, on est en train de vivre un truc, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est. Et là, tu te retrouves là, le bruit des manchots empereurs, des bébés et tout. Enfin, voilà, c'est inexplicable. J'ai fait un module dans ma formation où j'ai fait un petit backstage de ça. Et j'espère faire un mini docu de cette partie-là aussi. À voir si je pourrais pourrais communiquer là-dessus, parce que c'est assez compliqué de communiquer sur ça. Mais j'espère pouvoir partager ce moment. Alors, je le partage en photo aux gens déjà. Mais voilà, ça, en tout cas, c'est un moment vraiment unique, parce que je me dis, on a été sans le vivre, quoi.
Ouais, bien sûr.
Tu vois ?
Putain, ça doit être complètement dingue. Ouais. Puis ça doit être très dépaysant par rapport à nous on voit, ce dont on a c'est l'habitude. Ça.
Puis le déplacement d'un manchot, c'est tellement rigolo. En fait, y a tout. C'est déjà le manchot en lui-même est rigolo et en fait, il n'est pas farouche du tout. Alors, il y a une règle, c'est qu'on ne doit pas s'approcher à moins de 5 mètres. Mais alors, techniquement, là, avec le Covid, ils ont fait aussi une nouvelle règle qu'en fait, le manchot peut techniquement s'approcher vers toi. Sauf que là, avec le Covid, etc., s'il s'approche, on doit reculer. Mais y a des expéditions, j'ai déjà vu, où les manchots, ils viennent se coller aux gens, tu vois, aux photographes, avec, t'as le manchot dans l'objectif. Et nous, c'est vrai qu'il y a un moment, mon pote, il me dit, derrière toi. On ne l'avait pas vu, il était derrière moi, il était à un mètre de moi. Donc là, je me suis décalé, tu vois, parce qu'on voulait respecter le truc. Mais en me retournant, je vois un manchot qui fait plus d'un mètre de haut et qui me regarde, qui n'en a rien, enfin, il a aucune peur. Aucune peur, et c'était beau à voir, parce que tu te dis, bon, t'arrives quand même avec un bateau, tu te dis, t'as un certain impact, c'est vrai, sur l'environnement, donc c'est ça qu'il faut faire, il faut faire attention à ça. Mais en fait, j'avais peur de me dire qu'on pouvait les effrayer. En fait,
pas du tout.
Hein. Oh non, ils étaient là, ils venaient vers toi, c'était les potes, quoi.
Et alors, sympa comme bande de potes.
Ouais, ouais, ouais.
Et comme tourner en Antarctique, est-ce que ça t'a mis des contraintes techniques?
Je pensais, mais en fait, non, par rapport à là où on était. Malheureusement, voilà, aussi avec le réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Moi, je me suis retrouvé sur la banquise, presque un t-shirt, quoi.
Oh, wow.
Donc, okay. Ouais, ça, c'était, on avait prévu une glacière avec des chaufferettes pour les batteries, etc. Autant dire que la batterie, elle durait autant que là à Marseille, quoi. On n'a pas senti ça. J'ai plus senti ça où je suis allé deux fois à Svalbard, donc dans le nord, vers le Groenland, où là, il faisait moins 35. Là, ouais, là, les batteries, j'ai senti que ça diminuait assez rapidement. Voilà. Mais en Antarctique, malheureusement, c'était à peine négatif, quoi.
Ok, ouais, donc tu n'as pas eu besoin spécialement d'apporter deux fois plus de batteries pour prévoir
après,
ça,
on
en
était,
fait.
On était toujours au bord de l'eau.
Okay.
Tu vois, donc en fait, l'Antarctique va faire très, très froid au centre de l'Antarctique, genre moins 50, moins 60. Là, je pense que tu risques d'avoir 2-3 problèmes. Mais là où on était, comme on était toujours à côté de la mer, bah, il faisait toujours assez chaud, en fait.
Ok.
Ouais, il y avait ça aussi.
Ouais, donc ça a simplifié un petit peu, entre guillemets,
au niveau
du
tournage,
d'un point de vue technique. Ok. Donc ça, c'est clairement ton meilleur souvenir, je pense.
Ouais, ouais, ouais.
Et est-ce qu'il y a une anecdote de tournage en particulier qui t'a marqué, ou c'est un peu celle-là aussi
Bah, ça aussi, après, au fur et à mesure, tout ce que tu vis avec les animaux, moi, honnêtement, ça me marque en général. On a des éléphants qui sont collés à nous dans la voiture, tu vois, enfin des trucs. J'ai eu un léopard sur une branche à moins de 5 mètres de moi.
Putain, j'ai vu ces images-là, c'est complètement dingue.
Ouais,
je me suis demandé, est-ce que c'est dans un parc dressés ou habitués à l'homme ou un truc comme ça, parce que là, vraiment, il est extrêmement près de toi, quoi.
Ah bah ouais, mais en fait, voilà, il y a certaines personnes vont dire, oh, c'est pas sécurisé et tout, mais en fait, si, c'est l'animal, il est né avec des voitures autour de lui. Donc, il a l'habitude de la voiture et il sait qu'on n'est pas, une menace pour lui. Maintenant, si tu commences à sortir la tête de la voiture, un pied ou descendre de la voiture, là, il va se dire, c'est bizarre. Donc là, il va pouvoir t'attaquer, peut-être. Donc, c'est une chose qu'on ne fait absolument pas. tu restes dans la voiture, au calme, tranquille, et il se passe rien, quoi. Moi, le léopard, il dormait sur la branche, il nous regardait une fois tous les 20 minutes, alors qu'il tournait la tête dans l'autre sens, il te regardait même pas, il avait aucune peur. En fait. Mmh. Il savait que t'étais pas du tout une menace pour lui. Donc voilà, bon, ça c'est vrai que c'est beau, quoi.
Ah, c'est l'image, encore une fois, est extrêmement impressionnante. Quand on connaît pas du tout le monde animalier, bien sûr, paraît vraiment délirant, quoi.
C'est ça.
Ok, on a fait un peu le tour de tes différents projets récents et de tes différentes expériences.
Ouais.
Je sais qu'à côté de ça, tu as aussi une grosse activité, je sais pas en tout cas, mais tu as une activité sur la partie formation où tu t'essayes de partager un petit peu les choses que toi tu as appris pendant toutes ces années-là.
Ouais.
Tu as différents projets comme ça. Aujourd'hui, toi, ton activité, elle se sépare vraiment entre cette partie création de contenu, vraiment, qui j'imagine te tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment la base de tout. Et à partir de ça, tu as un peu diversifié avec donc la formation. Tu as lancé récemment avec une marque du coup des puzzles de tes photos. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Comment ça se gère tout ça?
C'est complexe. Honnêtement, à la base, la formation, elle est partie du fait que j'ai fait pas mal de tutos YouTube où j'aimais partager, mais il n'y avait pas vocation à faire plus que ça, tu vois. Et mon ami Nico, qui travaille avec moi, m'a dit, j'y sais, franchement, le monde de la formation, ça commence à se développer dans des domaines comme l'immobilier, etc. Tu devrais essayer d'en faire une en photo, vidéo. Donc là, on était en 2018, quand on parle de ça ensemble, sur un voyage aux Dolomites. Et je dis, ouais, franchement, bah allez. Donc, sur le retour, on s'est fait un sommaire en voiture. On s'est dit, ah, tiens, il faudrait qu'on parle de ça. Et en fait, comme j'ai eu la chance de toucher à beaucoup de domaines, parce que j'ai jamais voulu me spécialiser dans quelque chose, même si à la base, j'étais spécialisé dans le sport extrême, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du paysage, j'ai fait plein de choses, de l'automobile, etc. Et donc, je me suis dit, on va essayer de créer une formation où les gens vont pouvoir retrouver plein de domaines en photo et en vidéo, et de se dire, en fait, ok, je vais découvrir par exemple l'automobile, je vais regarder, je dis, ça me plaît pas trop, ok, pas grave, oh, je vais regarder le paysage, ça me plaît un peu plus. Et en fait, le but de cette formation, c'est que tu sois débutant, amateur, expert, tu vois, tu puisses te dire rapidement, ok, ça me plaît, ça me plaît pas, et en fait, te diriger vers ce qui te correspond le plus. Et donc, c'est ça que j'ai voulu créer. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, une fois qu'on a tourné tous les modules, on a mis un an pour tourner ça un peu aux quatre coins du monde. Donc ça aussi, c'était la particularité. Je ne voulais pas faire un truc dans mon studio chez moi. Quand je te parle de photos animalières, tu vois, on est parti en Namibie, paysage en Islande, etc. Et donc, je voulais proposer quelque chose qui était aussi un peu à mon image, à ce que j'avais l'habitude de faire. Et je me suis dit, une fois qu'on a lancé ça, tu vois, c'est du passif, quoi. En gros, les gens achètent et
bien sûr,
un peu de SAV et pas du tout. Pas du tout, je passe ma vie derrière la formation.
Donc aujourd'hui, c'est une grosse partie de ton activité, en fait, c'est la formation. Oh waouh, ok. Donc c'est ce qui te permet aussi peut-être de financer tes projets à côté plus de cœur.
C'était aussi ma vision. C'est-à-dire que, pour être tout à fait honnête, le monde de la formation, ça rapporte de l'argent. Et en fait, je m'étais dit, grâce à ça, ça va me permettre de financer les projets que j'ai pas la chance de faire parce qu'un client me contacte pas pour ça.
Ou t'as pas de producteur qui est prêt à financer le projet.
Type Ossiligui, etc. Donc aujourd'hui, ça m'a permis, grâce à la formation, de mettre 20 000 euros pour partir avec toute mon équipe, faire un projet qui peut-être va me rapporter zéro. Mmh. Mais derrière, je me suis fait un énorme kiff. On a rencontré des gens extraordinaires, on a fait du contenu de fou, on s'est régalé. Et en fait, c'est un peu mon business model. C'est-à-dire, je me suis dit, grâce à ça, je vais me permettre de créer du contenu, voyager, parce que je finance ma formation en même temps, je voyage, je crée du contenu pour moi. Là, aujourd'hui, on a plus de 3000 élèves, c'est énorme, et on a des centaines d'élèves déjà qui nous partagent des projets professionnels, des reconversions, des gens qui font des devis énormes, genre qui vraiment gagnent leur vie grâce à ça. Donc ça, c'est une énorme reconnaissance. Tu vois, derrière, quand tu te dis, t'as pas juste, tu fais une formation bidon,
bien sûr.
En fait, ça sert à rien, le mec. Non, là, on a des gens qui vivent de leur passion grâce à ça. Donc pour moi, je me dis déjà, ce que j'ai créé, pour moi, c'est génial, mais pour les autres aussi. Et c'était le but, tu vois. Et donc, tu as une énorme reconnaissance. Ça continue tous les jours. Et moi, grâce à ça, je finance plein de choses. À chaque fois, on fait des nouveaux projets. Là, on est parti aux îles Canaries pour faire une formation drone FPV. Ça coûte, ça m'a coûté 6 000 euros de partir là-bas. Mais en même temps, sur place, on va créer quelque chose de dingue.
Et tu vas pouvoir créer aussi du contenu, peut-être plus docu, faire de l'image, etc. Trouver un autre partenariat avec une marque pour éventuellement présenter, le dernier objectif Canon.
Ouais.
qui te permettra de faire des images un peu particulières, ou DJI
ouais.
Pour la partie drone.
Ouais, tout à fait.
Et ça te permet en fait de faire un peu ce côté multifacette, on va dire. Quoi. Ouais. C'est une pierre 12 coups.
En fait, je voulais plus trop avoir la contrainte du client, en fait, parce que j'ai certains projets. Moi, je suis plus quelqu'un qui aime les petits projets où on a un peu carte blanche, on va se régaler. Une fois, j'ai fait un gros projet où il y avait 40 personnes sur le tournage. Bah, c'est le seul projet qui est jamais sorti. En fait, il y avait tellement de gens décisionnaires derrière qu'en fait, personne ne s'est mis d'accord, le projet n'est jamais sorti. Et ça fout les boules. Tu vois, alors que quand tu as des projets carte blanche, par exemple, dans le monde du sport extrême, je fais encore des choses, des vidéos de VTT, la marque, elle me dit, t'as carte blanche. Mais carte blanche, là, tellement qu'on a fini avec un mec qui ressemble à un alien dans la vidéo. Il ne le savait pas. Mais vraiment, c'est pas une blague. Un mec qui a plus d'oreilles et plus de nez, on a filmé avec ce gars-là, on a envoyé le projet, on leur a dit, voilà, c'est ça le projet. Elle dit, ah oui, là, c'est carte transparente. Là. Mais en fait, on s'est régalé et on a créé un truc unique que personne n'a jamais fait avant. Et ça me fait kiffer. Tu vois, il y a des gens qui vont être passionnés pour aller réaliser la prochaine pub Dior ou j'en sais rien. Moi, ça ne me passionne pas parce que je vais me retrouver sur un plateau avec 10 000 personnes.
Ouais, avec plus de contraintes.
Plus de contraintes, etc. Sûr. Ah oui, c'est sûr qu'au lieu d'être payé 5 000 euros, autant je vais être payé 100 000 euros pour faire la pub. Mais en fait, ça ne me plaît pas dans le fond. Tu vois ? Et en fait, c'est tout le business model aussi de la formation. C'est de pouvoir être capable en fait, de me dire, ben, je vais aller faire les photos de guépard. Personne ne veut me payer pour ça. Pas de souci. J'ai le financement.
J'ai pouvoir m'autofinancer.
Je fais mes photos, on se régale. Voilà, en fait, c'est un peu ce que je vis aujourd'hui.
Ok. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on a au final, il y a beaucoup de youtubeurs américains qui ont créé énormément de contenu, de tutoriels, etc., ouais. qui est extrêmement qualitatif. Et il y a les Philip Bloom, etc., ouais. qui font des tests à gogo de tous les équipements qui existent, ouais. pour ne citer que lui. Mais c'est vrai qu'en contenu français, au final, il n'y a pas grand chose. Mm-hmm. Et il commence à y avoir de plus en plus de contenu, d'une part sur YouTube,
ouais.
dont ceux que tu as réalisés. Et au final, il n'y a pas encore vraiment de formation libre, en mm-hmm. tout cas, qu'on peut faire en dehors des écoles, sans parler voilà, de toutes ces écoles, l'ECA, l'ESRA, toutes ces écoles privées. Et si on veut se former à côté de son boulot ou autre, il n'y a pas forcément.
Bah ça, honnêtement, là, depuis le Covid et tout, ça se développe. Parce que aussi les gens ont compris que le format de la formation, bah c'est top. Quoi. Tu vois, t'as quand même financièrement derrière, tu as quand même un produit où tu n'as pas de stock. Tu vois, donc tu te dis.
Oui, c'est un produit que toi, ça te coûte une fois de l'argent pour le produire et après tu peux le vendre pendant un an.
T'as des frais
deux ans.
Parce que moi j'ai 4 personnes plus moi à charge derrière pour gérer ça. Tu vois, genre, en fait, c'est une chose, je ne pensais pas à ça au début. Je me suis dit vraiment, je la fais, je mets les vidéos sur un logiciel, ok, je paye tous les mois le truc. Et puis les mecs, ils achètent et ça tourne, tu vois. En fait, pas du tout. Mais alors, absolument pas du tout. Et en fait, heureusement, parce que c'est ce qui est encore plus passionnant. Parce que tu as le retour des gens, tu as les gens qui disent « Ah, ça serait bien qu'il y ait ça aussi dans la formation. Ouais, ok, tu as raison. Trop bien, vas-y, je pars, on va faire ça. » Et en fait, tu vois, la formation drone, c'était exactement ça. On avait quelques modules drone dedans.
C'est sur des demandes, en fait, que tu as eues.
C'est ça. Et les gens m'ont dit « Ah, ce serait bien que fasse un truc drone. » Ouais, t'as trop raison. Vas-y, feu, on prépare, on y va.
Et comment, du coup, tu balances ? Moi, je trouve ça vachement intéressant. On sort un petit peu du sujet prévu, mais je trouve ça assez intéressant de se demander, du coup, comment toi, tu balances entre cette passion à la base de « je veux faire de l'image, de choses qui me passionnent mm-hmm. » à aujourd'hui, tu te retrouves à faire du SAV d'étudiants, entre guillemets, de tes étudiants.
Bah ouais.
Du coup, comment ça se passe pour toi ? Parce que c'est vraiment un switch plutôt total de métier. Et comment on balance
Alors là, il y a plusieurs parties. Donc, j'ai plusieurs personnes, donc, comme je t'ai dit, qui travaillent avec moi sur tout ça. Je vais avoir Marie-Laure qui va gérer toute la partie inscription, SAV, enfin retour un peu des élèves, etc. Hervé, lui, qui est parti au Kenya avec moi, mais qui lui va gérer toute la partie site internet, enfin gestion de beaucoup de choses derrière, la musique quand on en a besoin, enfin et encore du SAV aussi. Nico, lui, qui va gérer toute la partie communication, donc il va gérer la page Instagram de la formation, le retour de certains élèves, les posts Instagram, gérer les emails, les choses comme ça. Jérémy, qui est avec moi, qui lui va m'aider à tourner les modules et monter les modules. Et moi, je vais chapeauter tout ça et être en fait dans tous ces domaines-là. Voilà, je vais trouver les idées créatives pour les prochaines formations, les gens avec qui on va travailler, écrire les formations, tout ce qu'il va y avoir dedans. Gérer une partie administrative aussi qu'on n'imagine pas, mais qui est
ça,
énorme.
Ça, pour toutes les sociétés, c'est le boulot de paperasse.
Je passe des journées où je ne touche pas du tout à mon logiciel de montage, photo ou vidéo. Et en fait, les gens ne voient pas ça sur Internet.
Ouais,
sur, on ne partage pas ça en story, mais en fait, je passe des fois des semaines à faire des choses. De 5 minutes après, c'est une chose qui n'a rien à voir avec celle d'avant. Mais en gros, si tu en loupes une, tout est foutu en l'air. Mmh. Donc, d'un modèle au départ où je me suis dit, tu balances des vidéos, les mecs, ils achètent et on fait tourner, c'est cool. Alors,
c'est, en fait, c'est un boulot ça. À plein temps, ouais.
C'est pas quand tu vends des presets, tu vois, des filtres photos. Voilà, ça c'est...
Oui, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, de vendre les presets de colo, etc.
Ça, ouais. Ça c'est cool, tu vois, je l'ai fait aussi, mais ouais, ça voilà, ça tu les mets en vente, allez, ça tourne tout seul, tu vois, j'ai envie de te dire, après il faut faire de la com. Là, il y a toute cette partie communication sur la formation qui est importante, parce que la concurrence devient la plus importante aussi, donc il faut savoir un peu ce qui se fait sur le marché, être le premier à faire ça. Nous, la formation drone FPV, ça n'existe pas. Donc à l'instant où je te parle, elle n'est pas sortie, mais où les gens peut-être vont écouter le podcast, elle sera sortie. Et en fait, ça n'existe pas de la façon dont on l'a
fait. Après, c'est une formation qui te permet d'avoir les bases. Je ne connais pas du tout, donc j'imagine que c'est une formation qui va te permettre d'avoir les bases un petit peu du fonctionnement d'un drone et de comment faire de la prise de vue en drone.
Ouais.
Mais par contre, on est d'accord, ce n'est pas une formation qui va te permettre d'avoir
le diplôme de drone. Non, mais on y travaille avec quelqu'un qui intervient dans cette formation. Donc, il y a trois personnes qui interviennent dans cette formation. Moi, en tant que pilote classique de drone, tu vas avoir Daniel qui, lui, est un pilote de drone professionnel et formateur. Donc, c'est avec lui qu'il y aura peut-être cette partie-là. Ah,
donc, l'idée, c'est d'avoir une deuxième partie, en présentiel.
Exactement.
Qui va permettre de valider...
ton diplôme de drone et droniste professionnel.
Ok, génial.
Et Félix Airflex, qui, lui, est pilote de drone professionnel en FPV et qui, lui, fait toute la partie FPV classique et gros porteur pour du cinéma. Donc là, en fait, on propose quelque chose qui n'existe pas sur le marché aussi complet. Tu vois, mais peut-être au moment après où on écoute, il y a peut-être quelqu'un qui en a déjà sorti une autre. Tu vois,
j'espère qu'on le sortira quand même. On va pas mettre autant de temps à sortir l'épisode, j'espère. Mais
en fait, et le but, c'était de proposer tous les domaines les plus répandus pour que chaque personne se dise « Ok, ça j'aime bien et ça j'aime moins bien. » Et voilà, et se faire kiffer, découvrir des choses. Il y a des gens qui vont dire peut-être la photo animalière, ça les intéresse pas, mais ils vont découvrir le module, dire « Ah, c'était quand même cool, c'est un beau voyage. » En fait, à la fois dans la formation, je vais les faire voyager, vivre des expériences. Et quand je te disais tout à l'heure, j'ai rajouté ce petit module Antarctique. Quand on était sur place avec la colonie, avec ma GoPro, j'ai filmé vraiment un peu mes ressentis, deux, trois réglages que j'ai utilisés sur place. Et les gens, ils découvrent un backstage qui est unique au monde. Tu vois, donc en fait, c'est ça. C'est apporter le petit truc qui, en plus, fait kiffer les gens, quoi.
Ah ouais, je vois tout à fait. Génial. Pour terminer, du coup, une question un peu générale. Est-ce qu'il y a un contenu, un podcast, un livre, une émission ou quelque chose que tu écoutes ou que tu as écouté et qui t'inspire beaucoup et que tu pourrais recommander
Alors moi, ce qui est bizarre, mais j'aime bien, en fait, j'aime bien écouter du business. Genre tout ce qui est un peu, sur le développement personnel. Tu vois, par exemple, dans la formation, j'ai mis une trentaine de modules développement personnel où je parle de mes expériences, de mes échecs, réussites. Parce qu'en fait, on n'en parle jamais assez. Et savoir faire les réglages, c'est bien, mais la vraie vie, c'est pas ça, quoi. Et en fait, ça permet de faire gagner du temps aux gens. Et moi, j'aime bien écouter ce genre de choses, des anecdotes, des personnes super connues. J'aime beaucoup David Laroche, tu vois, qui fait de la formation vraiment en développement personnel. Et il a une chaîne YouTube où il s'appelle Business Impact. Je crois que c'est bien ça, où il interviewe des personnes comme Marc Simoncini, enfin et tout. Et en fait, ils ont des anecdotes incroyables à raconter. Et quand tu écoutes ça, tu vas retrouver peut-être des moments que tu as vécu toi, ou un moment où tu vas dire « Ah, peut-être que si je vis ça, ça serait bien que je réagisse comme ça. » Et en fait, ça, je trouve que c'est vachement génial. Ça aide dans tout, que ce soit ta vie personnelle ou professionnelle, ce genre de choses-là, ça impacte vraiment. Et moi, en fait, des fois, je m'y retrouve là-dedans. Des fois, je me dis « Ah, j'ai fait le bon choix. » Des fois, je me dis « Ah, là, j'ai un peu merdé, peut-être que j'aurais dû faire ça. » Et puis, tu vas écouter un autre gars. Et lui, il va te dire un peu pareil, tu vois. Et il y a un truc qui m'avait marqué dans une interview qu'il avait dit, Marc Simoncini, en disant qu'il connaît plein de gens qui sont richissimes, mais qui à 60-70 ans continuent de travailler, et il dit, ils vont faire quoi? Ils vont être les plus riches du cimetière. Tu vois, et en fait, ça me fait réfléchir en me disant que lui, il a fait le choix, maintenant parce qu'il gagne bien sa vie, etc., de dire qu'il travaille une semaine sur deux. Il dit, j'ai réussi, maintenant je me fais kiffer, je pense à ma famille, etc., par rapport à d'autres personnes qui délaissent tout. Et moi, je l'ai fait, tu vois, c'est ce que je dis aussi, j'explique. J'ai délaissé ma famille pendant un moment, malheureusement, parce que je savais que c'était obligé pour réussir. Tu vois, je ne pouvais pas me consacrer à certaines choses. Pendant des années, je me suis dit, je suis seul, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un parce que si je suis avec quelqu'un, je vais devoir me consacrer à cette personne-là. Et en fait, ben, tu apprends que ces gens aussi ont appris à délaisser au départ pour pouvoir réussir et après ben, rattraper un peu le temps perdu et pas utiliser ce temps toute sa vie et être le plus riche du cimetière, tu vois, après. Mmh. Et en fait, ben, tout ce genre de choses, ça me fait vraiment réfléchir. Et je conseille aux gens d'aller écouter un peu ces trucs sur développement personnel et vraiment de s'ouvrir et pas de se dire « Ok, j'ai raison, c'est comme ça que je dois faire. » Et dire « Ok, écoutons ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ont vécu des trucs assez dingues. » quoi.
Super. Bah, merci beaucoup, j'y sais.
De rien.
Merci pour ce moment et puis pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et du coup, bah, on peut retrouver prochainement, on ne sait pas, sur YouTube ou ailleurs, ton prochain docu. Et puis, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, surtout, si je ne dis pas de bêtises, c'est JC Pierry, tout simplement.
Ouais.
Voilà. Enfin, sans le tout simplement, mais juste JC Pierry. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup.
Merci
à très vite.
Toi.
Ciao.
Ciao.
Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à l'écoute de Générique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Cela nous aide énormément. Au Générique revient dans 2 semaines avec un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et vous dis à très vite.